en dire des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour, bonsoir. C'est un personnage complexe et ambigu dont la réputation reste sulfureuse. Anaïs Nin est célèbre pour ses journaux intimes, ses récits érotiques parmi les premiers rédigés par une femme à partir de la fin des années 30, ses multiples liaisons, notamment avec l'écrivain Henry Miller. Mais comment la jeune américaine, plutôt ignorante des choses du sexe, est-elle parvenue à trouver son chemin, à s'imposer, à renoncer à la morale de son éducation protestante pour se laisser aller à suivre ses instincts? Entre libertinage, bisexualité, inceste, consenti avec un père qui abusait d'elle enfant, plongée dans la sexualité, dans les rêves, les cauchemars et les fantasmes, bref, plongée dans la psyché d'Anaïs Nin à travers un roman graphique au trait vaporeux, coloré et élégant. Anaïs Nin sur la mer des mensonges de notre invité Léonie Bischoff est paru aux éditions Casterman et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Léonie Bischoff.
Bonjour.
Quand avez-vous découvert Anaïs Nin ?
Je l'ai découverte en deux temps. La première fois, un peu par hasard, je faisais du babysitting, j'étais adolescente, 14-15 ans, quelque chose comme ça. J'aimais beaucoup lire et mon grand plaisir, c'était d'explorer les bibliothèques des familles dans lesquelles je babysitais, une fois les enfants couchés. Et je suis tombée sur les volumes de Vénus Erotica, le petit volume de nouvelles érotiques que j'ai feuilleté. Et j'étais un peu perturbée par cette lecture parce qu'il y a des thèmes déjà pas évidents. C'est souvent des relations un peu troubles dans ces nouvelles-là. Je l'ai refermé, pas convaincue, mais j'avais retenu son nom. Et quelques années plus tard, je suis tombée sur un marché aux puces, sur des volumes de ses journaux. J'ai reconnu ce nom et j'ai vu surtout son visage sur la couverture qui m'a vraiment fascinée tout de suite. Et je les ai pris un peu au hasard. Et il se trouve que c'était le volume qui parle de la période dont je parle dans ma bande dessinée et qui est à mon avis le plus facile pour entrer dedans. Donc j'ai eu, entre guillemets, la chance de tomber dessus.
Et donc c'est ce visage, c'est le visage d'Anaïs Nin qui vous a donné l'envie d'en faire un album de BD ?
Oui, alors pas que le visage, après avoir... ouvert ces volumes, j'ai vraiment tout de suite senti un grand intérêt pour sa voix, pour sa façon de s'exprimer. Je crois que j'avais jamais lu de journaux publiés encore jusque-là. Et puis des journaux d'une femme dans une époque où les femmes n'avaient pas du tout l'habitude de parler de leur intimité. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui s'explore. Le journal, a priori, n'avait pas pour but d'être publié. C'était vraiment un outil pour elle-même, où elle réfléchissait sur sa propre vie, où elle s'analysait, où elle essayait de faire du tri, quelque part, dans sa tête, de se comprendre elle-même un peu mieux. Et je pense que cette voix, cette espèce de sincérité que je sentais, m'a vraiment appelée, et ça faisait résonner certaines choses en moi. C'est aussi l'époque où elle-même n'est pas encore vraiment écrivain. Elle cherche sa propre voix, son authenticité, sa force, et je la cherchais aussi.
Alors cette époque-là, c'est la période 1928-1934, hein, quand elle
oui,
a entre 25 ans et la trentaine. Pourquoi vous avez choisi justement de vous concentrer exclusivement sur ces années-là? Parce que vous auriez pu faire un biopic, une biographie d'Anaïs Nin, de sa naissance à sa mort. Vous avez vraiment voulu focaliser sur cette époque.
Ouais, ça a été un assez long processus pour me décider à faire ce choix. Parce qu'effectivement, je suis fascinée un peu par toute sa vie. J'ai adoré aussi lire ses journaux d'enfance, d'adolescence, et de très jeunes femmes mariées qui sont très beaux. J'ai aimé aussi les journaux plus tardifs. Mais à un moment, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire un seul album et qu'en bande dessinée, si on veut pouvoir faire passer les émotions, par exemple, c'est le fait que quand je la lis, je ressens beaucoup d'émotions qui sont de l'ordre de l'intuition, des sensations, des choses vraiment presque sensorielles, et que si je voulais raconter toute sa vie, j'aurais pas la place de faire passer toutes ces choses-là dans une BD. Donc me restreindre à cette période, après le choix de la période a été assez simple, parce que pour moi c'est le moment le plus révélateur et le plus exaltant de sa vie, où il y a vraiment une éclosion qui se fait à travers ses rencontres, à travers le mûrissement qui a eu lieu chez elle jusqu'à ce point-là.
Oui, une éclosion, un épanouissement à la fois personnel, littéraire et artistique. Quand le récit commence, elle est donc effectivement à un moment charnière de sa vie. Elle n'est pas encore l'écrivaine dont tout le monde parle. Elle est en train de travailler sur son premier livre, hein, sur D.H. Lawrence.
Tout à fait. Elle a commencé par une biographie aussi.
Voilà, l'auteur de Lady, l'amant de Lady Chatterley, hein, donc auteur scandaleux s'il en est. Et elle est mariée à ce moment-là, Anaïs Nin, à un jeune banquier qui s'appelle Hugh Parker Giller, qu'elle appelle Hugo, un intellectuel, un banquier, et tout de suite, hein, dès les premières pages de l'album, on a deux impressions qui peuvent paraître très contradictoires et qu'on va conserver d'ailleurs tout au long de la lecture. Hein, premièrement, elle l'aime, et deuxièmement, il lui suffit pas. C'est bien résumé ?
Tout à fait, tout à fait. Et je pense que Anaïs Nin, c'est la contradiction. C'est l'ambiguïté tout le temps. Et ça fait partie, c'est un peu le drame de sa vie. Elle le dit elle-même à plein de moments, elle est divisée. Elle part toujours dans plusieurs directions à la fois. Elle a toujours des besoins qui sont antinomiques et elle n'arrive pas à aller dans une seule direction. Et c'est vraiment le nœud de ses problèmes à cette époque-là. C'est cette impression de ne pas pouvoir se résoudre à faire des choix. Elle veut tout tester.
Et donc cet état d'esprit ambigu vous a servi aussi dans votre narration, puisqu'elle le partage, cet état d'esprit, dans son journal. Elle exprime en fait tout ce qu'elle ne peut pas dire ouvertement dans la société de son époque. Et vous avez eu l'idée d'ailleurs de donner une identité graphique à ce journal, de le représenter alors sous la forme d'un cahier, on le trouve effectivement dans la BD, mais surtout par un personnage, une sorte de double du personnage d'Anaïs. À un détail près, elle a les cheveux longs, hein, la jeune femme qui symbolise ce journal, elle a les cheveux libres,
oui,
surtout, et à plusieurs reprises dans l'album, Anaïs dialogue avec son journal, dialogue avec son double, comme ici à la page 15 de l'album. Il est justement question d'Hugo, de la relation entre Anaïs et son mari.
Mon amour, si tendre, si patient avec mon caractère. Pourquoi ne lui dis-tu pas ce que tu ressens vraiment, hein? Que c'est toi qui étouffes. Que tu voulais être la femme d'un génie, pas d'un banquier. Que cette vie te tue à petit feu. Arrête, il a juste besoin d'un peu de soutien. Et toi? Qui te soutient? Hugo, et toi mon journal, mon double. N'en as-tu pas assez de jouer d'épouse parfaite? Pas aujourd'hui.
Alors sur l'idée, déjà, Léonie Bischoff, pourquoi justement et comment surtout vous est venue l'idée de donner une apparence humaine à ce journal intime ?
Déjà parce qu'elle s'adresse réellement à son journal comme si c'était une personne.
Elle l'appelle d'ailleurs mon double, oui, mon âme sœur, donc il y a tout un dialogue qu'elle établit avec lui.
Elle lui parle vraiment parfois comme si c'était une personne extérieure, comme si elle parlait vraiment à son reflet dans le miroir ou quelque chose comme ça. Et puis deuxièmement, c'était vraiment une question de mise en scène, une question très pratique, où quand j'ai commencé à imaginer cet album, ma première peur c'était de me dire, je vais juste dessiner une fille assise dans un canapé qui écrit dans un carnet. C'est pas intéressant pour moi, c'est pas intéressant pour les lecteurs, les lectrices. Donc voilà, l'idée d'avoir cette incarnation qui est une sorte d'allégorie comme ça, qui a effectivement ses cheveux très libres pour symboliser bien sûr la libération des contraintes sociales et qui porte des vêtements un peu informes comme des sortes de toges grecques. Enfin, là, je pensais vraiment un peu, par exemple, aux œuvres de Klimt où on a ces allégories, voilà, quelque chose d'un peu hors du temps. Et puis de pouvoir comme ça installer des scènes qui sont des dialogues, ça évite d'avoir tout le temps des voix off ou des scènes très répétitives effectivement d'écriture.
Alors dans cette scène là que Michael Goncalves a mise en onde, donc avec cet effet sur la voix qui montre effectivement le côté un peu à la fois très proche et très irréel du personnage du journal, si j'ose dire, vous dessinez les deux visages très proches. Hein, parfois il y a une sorte de parallélisme entre les visages des deux personnages, parfois au contraire ils se font face. Comment est-ce que vous avez géré les postures des deux jeunes femmes?
Je dirais que ça vient, c'est vraiment à l'étape du storyboard où je vais chercher, j'ai une idée de scène. En général, je commence à écrire des bribes de dialogue et puis je commence à faire des petits croquis vraiment un peu en bonhomme patate comme ça, juste pour visualiser ce que ça pourrait donner. Et puis je bouge, je fais des têtes, c'est un peu ridicule à voir. Je sais que mes collègues d'atelier font pareil, je les vois.
Oui.
Donc on mime en fait ce qu'on est en train de mettre en scène. On essaye d'incarner les émotions pour les sentir dans notre corps. Et il y a quelque chose d'assez théâtral en fait, et du coup je pense que ça vient un peu instinctivement quand on se met dans les personnages. Et là du coup effectivement le jeu entre des profils qui regardent parfois dans la même direction, qui parfois s'affrontent, au contraire, ça donne une dynamique à la scène, et ça peut dire plus que ce que je dis avec des mots. C'est quelque chose que j'essaye toujours de faire en BD, c'est de faire passer plus d'infos par le dessin que par les mots.
Et dès la couverture, il y a aussi ce jeu de miroir avec ces deux figures féminines, hein, qu'on vient d'évoquer, que vous dessinez tête bêche, un peu comme des cartes à jouer, hein,
oui,
pour que nos auditeurs puissent bien visualiser. Donc il y a Anaïs Nin en chair et en os qui tient son journal à la main, et en dessous, hein, tête en bas, dans l'onde, il y a le reflet, et juste au-dessus, il y a le titre, hein, Anaïs Nin sur la mer des mensonges. Mensonges, Son journal, c'est l'instrument du mensonge ? C'est celui de la vérité ?
Un des instruments du mensonge. C'est à la fois un instrument de vérité et un instrument de mensonge, en fait. À un moment, elle va décider de séparer le journal en deux, d'en écrire deux. Donc celui qu'elle appelle le vrai journal, c'est celui qu'elle montre à son mari, comme elle l'a toujours fait. Elle lui en lit des extraits et elle y laisse paraître certains questionnements. Elle montre qu'elle n'est pas totalement satisfaite. Elle montre qu'elle a des pulsions et des questionnements. Et il y a le faux journal qu'elle présente à son mari comme étant simplement des fantasmes ou une sorte d'exutoire à son imagination. Mais pour autant, elle lui laisse pas le lire. Mais elle lui dit que c'est juste, voilà, une sorte de recueil de fantasmes. Mais c'est celui-ci dans lequel, en fait, elle raconte les aventures qu'elle vit réellement, à commencer par avec Henry Miller.
Et c'est celui-ci qui sera publié en 79, après sa mort ?
Non, alors en 79, c'est d'abord une version expurgée. Dans les années 60, la version expurgée. Et puis, dans les années 90, la version non expurgée. Mais il faut savoir que même la version non expurgée, elle a été très retravaillée. On n'a pas les journaux tels qu'ils sont. Elle a toujours recoupé, remis en scène, voire réécrit complètement certains passages. Le journal est vraiment une œuvre d'art basée sur sa vie, mais c'est pas du tout une œuvre brute. Ça a toujours été retravaillé.
La mère des mensonges, hein, c'est une expression que vous avez choisi de mettre en titre de l'album. C'est une expression qu'elle utilisait elle-même ?
Oui, je crois. Alors, j'ai un petit souci parce que j'y travaille depuis tellement longtemps. Et à un moment, j'ai décidé de prendre des libertés, même avec les citations. Et du coup, je ne sais plus exactement là où c'est ces mots exacts et là où je me suis permis des transformations. Je pense qu'elle utilise cette expression de mère des mensonges, plus dans le sens où elle dit que les... Alors, elle vit avec son époque aussi. Elle fait des généralités comme les femmes, les hommes, avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord aujourd'hui. Mais pour elle, elle perçoit que les femmes ont de la facilité à plonger sous la mer, dans les recoins sombres, dans les mensonges, alors que les hommes, eux, restent sur la rive en sécurité.
Voilà, et sur la quatrième de couverture, il y a effectivement cette phrase. « Chaque homme à qui j'ai fait lire mes textes a tenté de changer mon écriture. Écrire comme un homme ne m'intéresse pas. Je veux écrire comme une femme. Je dois plonger loin de la rive pour trouver les mots sous la mer. » Des mensonges. Est-ce que elle écrit réellement comme une femme pour vous, Léonie Bicheux ?
Je pense oui.
Ça veut dire quoi écrire comme une femme ?
Alors pour elle, ça voulait dire justement pouvoir se détacher des codes de la bonne littérature, des codes académiques, de toute la littérature approuvée. Parce que cette culture-là a été construite uniquement par des hommes et que les voix validées, les voix audibles, les voix publiées étaient à cette époque-là presque exclusivement masculines, soit encore à grande majorité masculine, même si ça a beaucoup progressé. Mais je pense que là, elle était très moderne de dire « je veux écrire ». Même si c'est grammaticalement faux par moment, même si j'utilise des formes qui sont que certains vont juger trop floues, trop poétiques, trop étranges, elle écrit ce qu'elle sent et elle affirme que cette voix-là a une valeur. Et dans ce cas, dans ce contexte d'aujourd'hui, je trouve que c'est encore très inspirant en fait de dire toutes les voix qui s'expriment d'une manière artistique doivent être entendues et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture. Ces normes-là sont créées par une élite, pour une élite et en fait empêchent de voir toute la diversité du monde.
Alors vous me voyez venir, Léonie Bischoff, est-ce que vous dessinez et vous racontez comme une femme ?
Je pense que oui, parce que j'ai été socialisée comme une femme. Je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte que les critères homme-femme, écrire comme un homme, écrire comme une femme, tout ça, ce sont des construits sociaux. C'est pas ma biologie qui détermine comment je dessine. C'est comment j'ai grandi, comment je me suis positionnée et comment je combats certaines choses que j'ai assimilées sans m'en rendre compte, sans le vouloir, et comment je déconstruis petit à petit. C'est tout ça qui fait ce que je suis en tant qu'autrice, de la même manière que pour un auteur homme, c'est son construit social et culturel qui fait ce qu'il est. Je pense qu'il n'y a pas de différence là-dessus.
Mais être autrice de BD, c'est plus difficile dans le monde de la bande dessinée contemporain qu'être auteur ?
Je pense
qu'il y a eu une polémique à Angoulême il y a quelques années, hein, qui ne date pas d'hier d'ailleurs, hein, sur la place des femmes dans le monde de la BD.
Tout à fait, je pense qu'il y a encore un problème de visibilité, parce que, et ça a d'ailleurs beaucoup fait progresser les choses, cette polémique a donné naissance au collectif des créatrices de BD contre le sexisme, dont je fais partie, qui a quand même bien fait bouger les lignes. En fait, on se rend compte que le problème est plutôt au niveau des journalistes, des comités de sélection des prix, de tout ce qui est mis en avant des œuvres. C'est pas réellement...
Voilà. Plus que de création.
Voilà, parce que moi en tout cas, et j'ai l'impression que mes consoeurs ont aussi eu plutôt de la facilité à être publiés, à voir leur projet prendre vie. Par contre, oui, c'est au niveau de la représentation et peut-être du réseau, mais je pense qu'en bande dessinée, on est quand même assez privilégié, et ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans ce métier, et j'ai vu une progression exponentielle du nombre et de lectrices et d'autrices et de libraires et de journalistes femmes. Et j'ai l'impression que notre métier est plutôt sain à ce niveau-là, dans le sens où ça change très vite.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Léonie Bischoff pour son très beau roman graphique Anaïs Nin sur la mer des mensonges chez Casterman. Alors vous connaissez l'expression Léonie Bischoff, elle ment comme elle respire. C'est un peu ça, Anaïs Nin, le mensonge lui permet en quelque sorte de respirer.
Absolument, oui, je pense que le mensonge est devenu un espace de liberté pour elle. Et la période dont je parle dans la bande dessinée, c'est aussi la période où elle apprend à s'autoriser, à mentir sans trop d'état d'âme. Des états d'âme, elle en aura toute sa vie, elle va toujours regretter de devoir être dans ce mensonge, de devoir, parce que ça devient au fur et à mesure de sa vie une logistique assez épuisante. Mais quelque part, elle vit beaucoup mieux comme ça que comme elle vivait avant, en essayant désespérément d'être la bonne épouse, avant ça d'être la bonne fille pour sa mère. Elle n'arrivait pas à se conformer à ces rôles-là. Et en même temps, elle est réaliste, elle sait bien qu'elle peut pas faire ouvertement ce qu'elle a envie de faire, qu'elle serait juste accusée de folie, enfermée ou quelque chose comme ça.
Oui, elle trompe son mari, hein, effectivement, mais elle ne veut pas le perdre et elle veut pas le blesser, quoi. Donc, elle a quand même encore des scrupules.
Elle a des scrupules et puis aussi elle a du respect et de l'amour pour lui. C'est là où je la trouve aussi assez moderne. Je pense qu'elle pressentait quelque chose qui peut s'approcher à du polyamour, même si, effectivement, Elle se sert d'un mensonge, donc elle est quand même loin, mais dans le sens où elle sentait qu'on peut sincèrement aimer plusieurs personnes à la fois, et qu'il est presque injuste, et en tout cas pas réaliste, d'attendre d'une seule personne qu'elle réponde à tous nos besoins. Et donc elle voit que Hugo a plein de qualités, qu'ils s'entendent bien, qu'ils partagent plein de choses, mais elle sent aussi qu'il y a d'autres choses dont elle a besoin et qu'elle aimerait explorer, qu'elle a besoin de faire grandir chez elle.
Mais donc elle a besoin de ces rencontres amoureuses, de ces rencontres sexuelles aussi, parce que l'amour n'est pas toujours là.
Non. Elle a aussi complètement détaché l'amour du sexe. Et ça va parfois ensemble chez elle, c'est souvent des passions qui sont à la fois mentales, créatives, intellectuelles et physiques. Mais c'est pas forcément de l'amour, c'est de la fascination. Et parfois, c'est vraiment juste charnel aussi. Et c'est pas un problème pour elle.
Et c'est aussi parfois par charité, quoi. Vous utilisez, enfin, oui. Je sais pas si c'est vous ou si c'est elle qui utilise le mot. Mais elle utilise le mot charité. Elle couche avec l'un de ses amants, on va pas dire lequel pour pas déflorer le sujet pour ceux qui découvriraient l'album, mais elle couche avec lui par charité.
Alors ça, c'est un autre thème qui m'a, je trouve qu'elle mettait ça en mots d'une façon tellement innocente, en fait. Elle dit ça comme si de rien n'était. Qu'elle laisse, c'est un potentiel éditeur, qu'elle laisse se soulager contre ses cuisses, donc elle ne laisse pas le pénétrer quand même, mais elle le laisse se frotter contre ses cuisses pour soulager le désir qu'elle se sent coupable d'avoir provoqué par charité. Ou parce qu'elle lui devait bien ça. Et là, on est vraiment en plein dans ce qu'on définit aujourd'hui comme la culture du viol, où la femme se sent coupable d'avoir provoqué un désir et donc va laisser faire des choses à son corps et quelque part se détacher de son corps, être dans une sorte de distance. Et elle décrit ça sans s'y attarder, avec vraiment une légèreté qui, vue d'aujourd'hui, est assez choquante, mais qui montre bien à quel point elle était quelque part un peu dépossédée de son corps par moment. Et alors qu'à d'autres, dans des rencontres comme avec Henry Miller, elle va pouvoir se réapproprier ce corps.
Alors quand ils se rencontrent, justement, Henry Miller et Anaïs Nin, c'est déjà un écrivain installé. Hein. Il a déjà cette réputation un peu sulfureuse qui est la sienne ?
Oui, alors il a pas encore, il a publié quelques nouvelles aux États-Unis, il est venu en France mais où il a un petit job pas très intéressant. Il est en train d'écrire Tropique du Cancer, son premier gros roman, mais il l'a pas encore publié. Je crois pas qu'il avait encore été accusé de pornographie, ça viendra justement avec ce roman-là, mais il a une réputation sulfureuse parce qu'il a vraiment la vie les artistes de Montmartre, la fête, les prostituées, les mauvaises fréquentations.
Oui, donc il a l'expérience, et c'est aussi ça oui. Qui attire Anaïs Lynch et Henry Miller. Pas que ça, mais c'est aussi ça.
Je pense qu'au début, elle est presque un peu rebutée par ça. Elle est fascinée par son esprit. Elle est un peu, j'ai l'impression, choquée justement par... il a un côté un peu guignol, un peu vulgaire presque. Elle est quand même très bourgeoise dans son éducation, très propre sur elle, on va dire. Donc je pense que par moments, elle est un peu choquée par lui. Et en même temps, il a une joie de vivre.
Ah oui, c'est un personnage aérien, hein, celui que vous décidez, Léonie Bischoff. Il est toujours comme ça en perpétuel mouvement, il a presque l'impression d'être en phase d'envol, quoi. C'est très très léger.
Oui, c'est ça. Il apporte vraiment une sorte de vent de légèreté, d'humour, de décontraction dans la vie d'Anaïs.
C'est un homme qui sait goûter profiter. Le plaisir, profiter de l'instant présent.
C'est ça. C'est quelqu'un qui profite. Et je pense que Anaïs Lynch, c'est une rencontre aussi à ce niveau-là qui lui a fait beaucoup de bien. Et il y a, comme vous le disiez, cette expérience des choses du corps, parce qu'il faut se souvenir que et Anaïs et son mari étaient les deux vierges en se mariant, qui avaient évidemment pas d'éducation sexuelle à cette époque-là, et que bon, elle le dit à un moment, ils ont acheté un Kama Sutra, ils cherchent les deux à faire progresser leur vie sexuelle. C'est pas du tout quelque chose de froid ou de négatif, mais ils ont pas les clés, ils ont surtout pas l'expérience. Et Henry Miller arrive là effectivement avec une grande expérience dans ce domaine-là et même des simples connaissances techniques, quoi, des gestes qu'il va utiliser sur elle et qui vont littéralement la faire fondre.
Et donc leur relation, elle est charnelle, elle est fusionnelle, elle est pulsionnelle, mais elle est aussi intellectuelle, elle est aussi créatrice, quoi. Ils se nourrissent. Tous les deux aussi pour leurs écrits.
Ça commence vraiment par une relation de l'esprit. Anaïs est fascinée par son écriture à lui. Il est très intrigué, très impressionné par son écriture à elle. Il va d'ailleurs lui dire « Je ne pouvais pas croire que c'est une femme qui avait écrit... » Dans le sens, seul un homme pouvait écrire quelque chose d'aussi bien. Lui n'est pas féministe pour un sou, par contre.
Certes, non.
Et donc, ça commence comme ça par presque une sorte de joute intellectuelle où ils vont se lire et se critiquer l'un l'autre pour se faire progresser. Donc, il y a une émulation vraiment très productive entre les deux. Ils se donnent une énergie créative l'un à l'autre. Et petit à petit, se développe une attirance physique, mais qui, à mon avis, ne serait jamais arrivée s'il n'y avait pas eu cette connexion mentale incroyablement
forte.
Cette
connexion-là, vous la dessinez, par exemple, là, à la page 39 de l'album, il y a une planche qui fait à peu près les trois quarts de la page. Vous pouvez nous expliquer, Léonie Bischoff, comment vous avez dessiné cette page-là?
Oui, alors ça, c'est une des scènes que j'avais imaginées assez tôt. En fait, souvent, Anaïs parle de Henry Miller comme d'un géant. Il occupe l'espace, son esprit est gigantesque et repousse les limites. Et donc, j'avais eu cette image mentale de Henry et Anaïs en train de travailler dans le jardin de la maison de Louveciennes.
Et qu'ils soient... Louveciennes, c'est la région parisienne.
Oui, c'est ça, ils habitaient en banlieue. Son mari banquier avait subi quand même le crash de 29. Ils avaient dû s'exiler en banlieue, ce qu'Anaïs vivait assez mal au départ. Puis finalement, elle a adoré cette maison. Et donc, il y avait un jardin un peu sauvage dans lequel elle aimait beaucoup et lire et travailler. Donc ils sont représentés en gigantesque par rapport à la maison et au mari et à la bonne qui sont tout petits. Et on les voit complètement absorbés dans leur travail avec des feuilles qui volent autour d'eux. Enfin, j'essayais vraiment de représenter cet état vraiment magique auquel on arrive parfois quand on est en train de créer, que ça marche, qu'on se sent bien, qu'on est excité par ce qu'on est en train de créer.
Paris, 14 avril. Ma vie est un exil. J'en vis tes jours tranquilles à Clichy. Henri, volcan velours. Bandit au souffle court. J'écris la nuit, le jour. Là dans mon journal.
La pluie est un exil, elle coule des jours tranquilles à Clichy.
Henri, j'ai le cœur lourd du gris qui nous entoure. Je crie depuis toujours tout mon amour, là dans mon journal.
La douleur assassine Anaïs Nine, Anaïs infiniment féminine. Anaïs Nine, à le diable au cœur, la douleur assassine.
Roman Cerda et Renaud sur RFI dans VMDN avec Léonie Bischoff pour son roman graphique Anaïs Nin sur la mer des mensonges paru aux éditions Casterman. Pour dessiner vos personnages, Léonie Bischoff, vous avez travaillé sur des photos d'époque ?
Oui, beaucoup. Heureusement, il y a énormément de photos d'Anaïs Nin, un peu à tous les âges. Henri Miller, un petit peu moins à cet âge-là. J'en ai trouvé quelques-unes quand même. Et j'ai un poil plus improvisé pour June, parce que j'ai trouvé que deux photos d'elle que je trouvais assez dur en plus, je la trouvais presque l'air maladif. Donc là, je me suis plus basée sur les descriptions qu'en fait Anaïs, qui la voit vraiment comme la plus belle femme du monde.
Voilà, June, c'est la femme d'Henry Miller à l'époque, voilà. Hein, où ils se rencontrent, on va en parler dans un instant. Mais il faudrait qu'on replonge à l'intérieur de votre album, page 27 cette fois-ci, où on est au tout début de la relation entre Anaïs Nin et Henry Miller, au moment où elle lui fait visiter sa maison.
Aujourd'hui, j'ai rencontré Henry Miller. Jaune pour la joie. Depuis combien de temps êtes-vous à Paris ?
Quelques mois. Je revis en France.
Turquoise pour la rêverie.
J'étouffais à New York, je devenais fou.
Vraiment ? New York me manque à moi. Rouge pour la véhémence.
Peut-être n'avez-vous pas encore découvert le vrai Paris. C'est merveilleux. Vous avez vraiment tout décoré vous-même.
Pêche pour la douceur. J'aime essayer de me construire un monde qui me convienne.
Je suis impressionné.
Et nous aussi, on est impressionnés, Léonie Bischoff, parce qu'il est très très beau, ce dialogue, très étonnant hein, aussi autour des couleurs. Comment est-ce que vous l'avez imaginé ? Comment est-ce que cette idée est venue sous votre crayon ?
Alors, cette scène-là, elle est décrite presque telle qu'elle dans le journal d'Anaïs Nin. Donc, elle avait cette maison à Louvciennes qu'il louait, mais elle avait décidé de tout rénover et elle aimait bien se créer une sorte de théâtre personnel. Et elle avait effectivement décidé de repeindre chaque pièce d'une couleur particulière et chaque couleur correspondait à une émotion. Et elle se déplaçait d'une pièce à l'autre suivant ce qu'elle écrivait.
Mais c'est assez singulier parce que ce dialogue, il entre aussi en résonance avec votre dessin à vous, parce que vous avez travaillé sur cet album avec un outil vraiment singulier, un crayon à mine multicolore. Alors comment ce crayon s'est-il imposé ?
Alors c'est venu petit à petit, c'est effectivement un crayon dont la mine contient non pas trois couleurs bien rangées chacune de son côté, mais des tout petits éclats de chacune de ces couleurs. Et donc dans un seul trait, la couleur va changer, se mélanger et donner un peu toute la gamme. Et c'est un crayon dont je me servais normalement juste pour des dédicaces. Il est très pratique en dédicace, on a tout de suite plein de couleurs en transportant qu'un seul outil. Et puis je faisais mes recherches pour ce projet. Je faisais donc d'habitude du crayon de bois avec une mise en couleur numérique. Et je sentais que ça convenait pas, il y avait quelque chose qui allait pas. Et c'est mon amoureux, en fait, qui m'a suggéré de tester une planche avec ce crayon qu'on appelle tous le crayon magique. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Mais dans un premier temps, je m'étais encore dit, je vais quand même faire une mise en couleur parce que la couleur a tellement d'importance dans les écrits d'Anaïs Nin, je peux pas m'en passer. Et donc, je fais ces premières planches que je vais ensuite montrer à Paris aux équipes de Casterman. Et j'amène aussi les planches originales, donc juste au crayon. Et là, de manière unanime, tout le monde m'a dit « Mais en fait, pourquoi tu fais une mise en couleur ? C'est avec ce crayon magique dont le trait vibre de lui-même, où il y a déjà plein de couleurs dans le trait, c'est pas nécessaire. Et puis la couleur, quelque part, étouffait un peu les visages, étouffait les expressions. Mmh. Et au moment où ils m'ont dit ça, j'ai ressenti vraiment un soulagement et vraiment la petite ampoule de Eureka. C'est bon, c'est comme ça qu'il faut que je le fasse. Et à partir de là, ça a été un plaisir de découvrir à chaque page comment je pouvais réellement jouer avec ça.
Est-ce qu'il y a des codes couleurs à travers l'album, ou est-ce que c'est plus nuancé que ça, si c'est un mauvais jeu de mots?
Je pense que c'est un peu instinctif. Ça n'a pas été construit de manière très rigoureuse. Ça s'est fait petit à petit. Alors, il y a quand même quelques scènes où il y a des couleurs en arrière-plan qui vont, surtout sur des scènes de nuit ou des scènes dont l'ambiance devait être vraiment différente du reste. Et sinon, non, là, c'est vraiment une partie où je me suis un peu laissée porter.
Alors, on est très souvent dans la légèreté, nous aussi on se laisse porter en quelque sorte par votre trait, parce qu'il est vraiment très élégant, Léonie Bischoff. Il y a beaucoup de lignes courbes dans les meubles, dans les vêtements, dans les postures des personnages, et notamment dans les postures d'Anaïs. On est vraiment, je le disais tout à l'heure à propos de d'Henry Miller, mais c'est aussi le cas pour Anaïs, on est vraiment dans un récit très très aérien, très vaporeux, constamment en mouvement.
Ouais, ça c'est vraiment un plaisir dans le dessin, et c'est aussi le bonheur de travailler sur un projet qui se passe dans cette époque-là, de la fin des années 20, début des années 30, où il y a tout ce qui touche à l'art nouveau, art déco, les costumes, les coupes de cheveux. En plus, Anaïs donc attachait une grande importance à son mobilier, elle aimait beaucoup tout ce qui était un peu la tendance orientaliste aussi de l'époque. Donc il y a vraiment un grand plaisir, un peu égoïste pour moi en tant que dessinatrice, à dessiner ce genre de choses, et c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup plus que par exemple le mobilier contemporain, que je trouve moins chouette à dessiner. Donc et du coup ça donne aussi, ça permet des mouvements et ça permet d'être moins réaliste dans le dessin. Je voulais pas non plus, je me suis renseignée évidemment, j'ai cherché de la documentation sur les costumes, les voitures, mais je voulais pas tomber dans la BD historique où je devais savoir absolument quel modèle de voiture ils avaient. Justement, je me permets aussi un flou artistique là-dessus.
Et les scènes de sexe, est-ce que c'est chouette aussi à dessiner, Léonie Bischoff? Parce qu'il y en a beaucoup à travers l'album. C'est un passage obligé, évidemment, quand on parle d'Anaïs Nin. Mais quelles sont les limites, peut-être, que vous vous êtes imposées, ou peut-être pas, d'ailleurs?
Je trouve finalement qu'il n'y en a pas tant que ça par rapport à l'œuvre d'Anaïs Nin. Ça a été vraiment la recherche d'un équilibre, justement, entre je voulais pas faire des scènes de sexe telles qu'on les voit d'habitude dans la BD, simplement parce qu'en général, ce qu'on voit en BD, c'est dessiné par des hommes pour des hommes. Et l'écriture d'Anaïs Nin, son érotisme est vraiment un érotisme au féminin, où on est dans le ressenti du personnage féminin et pas dans la recherche de provoquer une excitation chez un protagoniste ou un lecteur masculin. Donc j'essayais vraiment de retranscrire ce trouble qui est en elle, tout en n'étant pas trop prude non plus, parce qu'elle n'est pas du tout prude dans son écriture par moment, elle peut être vraiment très explicite. Et c'est un peu surprenant d'ailleurs ce mélange, où parfois elle est carrément fleur bleue, et deux phrases après elle va utiliser des descriptions hyper presque pornographiques. Et donc voilà, c'était vraiment une recherche d'équilibre.
Mais vous n'êtes pas allé jusqu'à la pornographie?
Non,
pour le
parce
coup.
Que en bande dessinée c'est visuel. Et donc, je voulais laisser plus de place à l'imagination des lecteurs et des lectrices et ne pas imposer des images trop axées sur les corps.
Et donc, vous avez utilisé des représentations marines, des représentations végétales. Pour quelle raison? C'est l'influence de l'art déco, là encore?
Oui, dans les motifs, mais c'est aussi vraiment... Là, je suis aussi assez proche de son journal où elle parle elle-même de se sentir comme... de sentir des éclosions de milliers de fleurs en elle, de sentir la montée de la sève. Enfin, c'est des images qui ont été souvent utilisées pour parler de sexualité, mais qui sont vraiment très présentes chez elle. Et il y a aussi cette... vraiment la texture des fleurs, des pétales qui peut facilement évoquer le sexe féminin et qui du coup me paraissait un bon compromis, en fait, quelque chose d'évocateur qui ne soit pas trop frontal non plus.
Même chose pour les insectes, parce qu'il y a beaucoup de papillons, donc là on parlait d'éclosion, oui. du personnage tout à l'heure, mais il y a même d'autres insectes qui se trouvent entre deux chapitres, mais oui. Aussi oui. Sur tel ou tel coin de case, etc.
C'est vrai que c'est beaucoup de papillons de nuit. Bon, il y a l'idée évidemment de la chrysalide et de l'émergence du papillon. Il y a aussi l'idée, c'est souvent en rapport à June, qui est vraiment une sorte de créature nocturne. Anaïs est comme attirée par la lumière de June, comme un papillon attiré par une ampoule. Et il y a ce côté éphémère aussi, parce que June, c'est à mon avis le personnage le plus triste dans cette histoire. Et c'est aussi la seule dont je n'avais pas la voix. Autant j'ai les écrits de Henry et d'Anaïs, j'ai des lettres d'eux qui parlent de June. J'ai trouvé aucune lettre de la main de June. Et donc, elle reste à jamais l'objet de leurs observations. Elle a un côté très éphémère, très fragile. Et du coup, ce symbole du papillon de nuit, je trouvais, allait bien avec.
Voilà, et vous la représentez pleine page, à la page 50 de l'album, elle avec ce regard un peu perdu.
Oui.
Et cet œil dans le ciel.
Ouais, c'est l'œil des autres, en fait, qui l'observe. Elle vit pour le regard des autres. C'est aussi quelqu'un comme Anaïs Nin qui se met en scène, mais à la différence d'Anaïs, elle se protège très peu. C'est quelqu'un qui va probablement se droguer, en tout cas beaucoup boire, probablement aussi se prostituer et qui a une vie très mystérieuse. Elle disparaît, elle réapparaît, même pour Henry qui est pourtant son mari. Il y a une grande part de mystère chez elle. Il ne sait jamais quand elle va apparaître et redisparaître. C'est vraiment une sorte... on dirait qu'elle n'existe que dans l'imagination des gens et on ne sait pas ce qu'elle fait dans les moments où elle n'est pas présente. Et il y a quelque chose de très dramatique où elle cherche toujours aussi à impressionner, à fasciner et elle ment encore plus qu'Anaïs. On se rend compte que pas deux fois elle va raconter la même histoire sur son enfance ou sur ses parents ou sur ce qu'elle faisait avant d'être mariée à Henry. On ne sait rien d'elle en fait.
Et puis il y a des pages qui sont complètement oniriques. Qui sont muettes, qui correspondent aux rêves, aux cauchemars d'Anaïs, parfois même à des hallucinations presque, où justement tout cet univers qu'on a évoqué depuis le début de cette émission se mélange, pas toujours de façon très cartésienne, on va dire. Léonie Bischoff, vous pouvez nous parler par exemple de la scène d'ouverture de cet album, qui justement est une scène muette, basée justement sur la mer.
Ouais. J'aime bien les scènes muettes déjà. Je trouve que en BD, j'ai l'impression qu'on peut faire des choses incroyables sans parole. Et cette scène d'introduction, elle m'est venue d'une phrase qui vient d'un des romans d'Anaïs Nin. J'ai moins d'amour pour ces romans, mais il y a quand même des images hyper fortes par moment. Et cette image d'un vaisseau, d'un bateau écrasé sur un rocher et qui pourtant n'est pas tout à fait mort. Et donc il y avait vraiment cette idée où elle-même est complètement frustrée à cette période-là de la vie. Elle se bat, elle est dans une sorte de tempête pour essayer d'arriver à créer quelque chose qui soit valable à ses yeux. Et à chaque fois, elle en sort, mais comme si elle était une épave, vraiment. À chaque fois qu'elle se confronte à ce processus d'écriture, et pourtant, elle se relève et elle y retourne. Et c'est vraiment cette image de la résilience qu'il faut pour arriver à devenir écrivain. Et c'est une des premières choses qui m'a parlé chez elle, c'était justement ce combat dans lequel je me reconnaissais tout à fait, parce que j'étais à une phase de ma vie où j'arrivais pas encore du tout à trouver ma voie. Et quelque part, son courage de toujours s'y remettre, malgré le découragement, ça m'inspirait. Et c'est pour ça que j'ai voulu, je pense, commencer par cette séquence où on dit déjà beaucoup d'elle à travers des images complètement presque abstraite, où il n'y a pas de personnage visible sur les deux premières pages.
Faire partager. Quelques notes de la suite espagnole pour violon et piano composée par Joaquín Nin, le père d'Anaïs Nin, un père longtemps absent, d'autant qu'il était compositeur et musicien. Léonie Bischoff, il a quitté très tôt le domicile familial. Les nouvelles sont rares quand commence votre récit. Et à la page 135 de l'album, ils se retrouvent, le père et la fille, après une longue séparation.
Anaïs.
Père, nous avons pris l'habitude de nous voir. Nous racontons ces 20 ans qui nous ont séparés.
Nous sommes si semblables. Tu es devenue si belle, si espagnole. Je craignais que tu deviennes comme ta mère.
Il est mon double diabolique. La caricature de tous mes défauts. Tissu de mensonges. Nécessité de jouer la comédie. Immense fierté. Quand je l'observe, je suis dégoûtée par mes propres mensonges et je réalise l'énormité de mon orgueil. Nous nous vantons de nos amours, de nos conquêtes. Sa nouvelle femme est exactement comme Hugo, bonté parfaite.
Nous n'avons pas besoin de nous mentir.
Et pourtant nous le faisons. C'est pour ne pas devenir comme lui que j'ai essayé de vivre pour les autres. Il est fier, même de son tempérament cruel.
C'est Nin.
Et je suis fière aussi. Mon côté Nin, comme dit maman. Tout doit être grand, noble. Je ne le vois pas comme mon père, mais comme un homme au charme infini.
Viens en vacances avec moi dans le sud. On te prendra pour ma maîtresse, ça sera délicieux.
Et on sent tout de suite dans ce dialogue, Léonie Bischoff, le côté malsain de ces retrouvailles, et ce n'est que le début. On le sait, parce qu'on connaît le personnage d'Anaïs Nin, mais on le découvre aussi dans l'album. On sait que quand qu'elle a été abusée, quand elle a été enfant, elle vous le racontez dans une scène de salle de bain avec l'image du miroir brisé. On sait aussi que ça s'est transformé plus tard en un inceste qu'elle a accepté, qu'elle a forcément subi, mais qu'elle a aussi accepté. Elle le raconte comment dans son journal?
Elle le raconte d'une manière qui est assez perturbante parce que très frontale, avec des mots vraiment extrêmement explicites. C'est parmi certaines des scènes les plus explicites de cette période dans le journal. Et ça dure, cette semaine de vacances, elle en parle pendant des pages et des pages. Avec vraiment, elle va décrire différentes scènes de sexe. Et on sent à la fois une sorte de presque détachement, une admiration pour ce père, une fascination même, et en même temps une fissure abyssale en elle. Elle a des moments où elle est vraiment comme figée d'horreur, où elle revient dans sa chambre, elle a besoin de moments de solitude, et où elle a peur d'être en train de devenir folle.
Et ce moment, donc, d'inceste consenti, c'est toujours bizarre d'utiliser cette expression, mais bon, au moins elle est claire. Ouais. Vous l'avez retranscrit dans la BD, un peu comme en négatif, quoi, pour utiliser une image photographique.
Oui, je crois que j'avais besoin de trouver quelque chose visuellement qui la distingue un peu des autres scènes de sexe de l'album. Parce que, alors c'est peut-être le seul moment où je la juge un peu, ou disons que c'est ce que je comprends le moins chez elle. Et en même temps, je sais que, enfin, j'ai lu que c'était un phénomène qui est bien connu en fait en psychologie, que des enfants ayant été victimes d'inceste dans leur enfance, une fois adultes, retrouvent leur agresseur et rentrent dans un jeu de séduction, allant parfois jusqu'au passage à l'acte, et reprennent quelque part le pouvoir, et vont en général eux-mêmes quitter la personne, mettre fin à la relation après ça. Et je pense qu'elle est vraiment dans ce schéma-là, et on l'a beaucoup accusée de folie, mais... Je trouve ça un peu facile de l'accuser, elle, et de ne rien dire du père, en fait.
Voilà, en tout cas, c'est un personnage extrêmement ambigu, hein, on le disait dès le début de cette émission, et que vous rendez, en tout cas, extrêmement attachant aussi à travers cet album. Merci beaucoup,
Léonie
Bischoff. Anaïs Nin, sur la mer des mensonges. L'album est paru chez Casterman.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Et avant de se quitter, un petit tour à Vienne, en Autriche, où Andy Warhol est à l'honneur jusqu'au 31 janvier prochain du MUMOC, le musée d'art moderne et contemporain de Vienne. Donc, l'exposition entend montrer une autre facette de l'artiste en s'éloignant du mythe et en s'intéressant à ses œuvres moins connues, notamment les toutes premières qu'il réalisa dans les années 50, exposition Kizorias, à visiter pour nos reportages.
De l'iconique Andy Warhol, le grand public connaît ses peintures d'objets du quotidien, dont les fameuses boîtes de soupe Campbell et ses portraits de personnalités, de Marilyn Monroe à Mao Zedong. Mais cela, vous ne le verrez pas au MUMOC, car l'exposition s'intéresse aux œuvres méconnues du pape du pop art. Une première salle est ainsi consacrée à ses œuvres artistiques du début, celle des années 1950. Les rassembler a été une gageure, reconnaît la commissaire Marianne Daubner.
It's really, really difficult to find out.
Il est très difficile de savoir quelles œuvres de Warhol furent exposées dans les années 1950, car il n'y a pas de photos d'exposition, pas d'archives, et presque toutes les galeries des années 50 ont fermé aujourd'hui. La seule chose qu'on ait, c'est quelques phrases dans la presse de l'époque. J'ai donc essayé avec cela de trouver ce qu'il exposa durant cette décennie, et Dieu merci, la plupart des œuvres se trouvent encore dans les archives du musée Warhol à Pittsburgh. Cela est dû au fait que Warhol a interdit dès 1962 l'exposition de ses premières œuvres, car à cette époque, il était déjà en train de créer son propre mythe. Et ses expériences dans ses premières œuvres sur papier ne cadraient pas avec ce mythe.
Ces expériences sont formelles mais aussi thématiques. On découvre à travers ses nombreux dessins que l'homosexualité, l'homoérotisme et le genre sont des thèmes omniprésents, abordés parfois de manière crue, parfois de manière codée. C'est le cas dans un abécédaire qu'il illustra en 1953.
Il a aussi gay code. That you can find. But where he also showed his
il y a un code gay que l'on peut trouver, mais on voit aussi sa technique du dessin tamponné qu'il utilisera aussi dans ses œuvres commerciales et le rendra célèbre. Cette technique du dessin tamponné lui permet ici de masquer le genre. Il est très difficile de dire si c'est une femme ou un homme qui est représenté, si c'est un adulte ou un enfant. Il joue donc réellement avec les rôles liés au genre dans cette œuvre.
La deuxième salle met à l'honneur six filles films réalisés par Warhol. Ils sont projetés dans le noir avec de la musique et au milieu de quelques tableaux. Là encore, un aspect méconnu de son œuvre.
Ce sont des films qui sont pour la plupart extrêmement longs. Warhol les projetait à une vitesse réduite et adorait les projeter avec la radio en fond sonore. Avec ses films, il allait beaucoup plus loin dans l'expérience qu'avec ses peintures. Pour moi, ses peintures étaient presque exclusivement faites pour le marché, alors qu'avec ses films, il expérimentait beaucoup plus.
L'exposition se termine d'ailleurs par une expérience. On entre dans une boîte noire où a été recréé l'Exploding Plastic Inevitable, un spectacle multimédia qui mêle projection, jeu de lumière et performance du Velvet Underground associé à la chanteuse Nico. Au final, cette exposition montre un Warhol moins commercial, même si cela peut dérouter les visiteurs.
Most of the visitors still really, really love.
La plupart des visiteurs aiment toujours énormément le langage simple et commercial de Warhol, qui dit que l'art n'est pas compliqué, que c'est pour tout le monde. C'est quelque chose que nous, chercheurs et historiens de l'art, ne comprenons pas toujours très bien. Pour nous, il est aussi important de découvrir l'autre facette de Warhol.
Le MUMOC propose deux autres expositions autour d'Andy Warhol, plus courtes et différentes. L'une s'intéresse par exemple à la relation entre le pop art, l'art minimal et l'art conceptuel. Toutes sont visibles jusqu'à janvier 2021.
Un reportage d'Isoria à Vienne pour VMDN. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dans un instant, l'info sur RFI. Et vous m'en direz des nouvelles.